9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Mon premier invité, François-Xavier Olivo, a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que nous sommes entrés dans l'ère de l'abondance. La mauvaise, c'est que nous avons l'habitude de gérer la pénurie, pas l'abondance, d'où les crises à répétition. Je recevrai ensuite Jean Todt, le patron du sport automobile. Le championnat du monde de Formule 1 recommence le week-end prochain. Et Françoise Chanternagor, qui ressuscite la fille de Cléopâtre, Sélénée, dans La Reine oubliée. Qui se souvient en effet que la fille de Cléopâtre a régné autrefois sur le Maroc et l'Algérie. Bonjour François-Xavier Olivo.
Bonjour Frédéric.
Vous publiez La crise de l'abondance aux éditions de l'Observatoire. Alors c'est une bonne nouvelle que vous nous annoncez. L'humanité n'a jamais été aussi riche. Le pays de Cocagne, dont rêvaient nos aïeux, où il y aurait assez à manger pour tout le monde, où l'on vivrait libre et en paix, et où les loisirs et l'éducation deviendraient l'occupation principale, c'est le nôtre.
Absolument.
Et c'est vrai à peu près dans le monde entier.
Alors, c'est plus vrai dans certaines parties du monde que dans d'autres, mais effectivement, on a effectivement jamais aussi bien vécu et on vit dans une espèce d'immense utopie, ou en tout cas dans un mode de vie qui ont toujours été ou qui ont été longtemps considérés comme totalement illusoires et utopiques sur... voilà, effectivement, il y a un niveau de paix qui est très large, il y a un niveau de richesse et de bien-être qui est très fort. L'humanité, grosso modo, mange à sa faim. Alors, il y a encore 11% de malnutrition, mais c'est un taux qui ne cesse de baisser dans le monde. L'accès à l'eau s'améliore, l'accès à l'énergie s'améliore. Et donc, effectivement, dans l'ensemble du monde, évidemment, beaucoup plus dans les pays riches, mais dans l'ensemble du monde, la situation s'améliore lentement, souvent en dehors de la vision des médias, mais elle s'améliore, oui.
Mais vous savez très bien ce que doivent être en train de penser nos auditeurs, François-Xavier Olivo. C'est que peut-être que pour vous qui avez fait Centrale, Sciences Po et Harvard, tout va bien, mais pas pour tous les Français et encore moins pour le reste de la planète. Les inégalités ou la sensation des inégalités est d'autant plus criante aujourd'hui qu'on est dans la situation que vous dépeignez.
Et absolument, et c'est d'ailleurs pour ça que mon livre s'appelle « La crise de l'abondance ». Et il y a bien des crises. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'elles sont précisément créées en partie par cette abondance et par notre incapacité à la gérer. C'est vraiment la thèse que je défends, c'est qu'en fait, on a effectivement beaucoup de crises, qui sont les crises environnementales, la crise des inégalités que vous soulignez, qui est effectivement criante et douloureuse, la crise aussi du travail qui est remis en question. Toutes ces crises-là proviennent de notre incapacité à gérer l'abondance.
Mais même l'abondance, c'est difficile à envisager. Mais c'est vrai, vous le rappelez que pendant des siècles, les hommes se sont battus pour ne pas mourir de faim. Or, nous produisons aujourd'hui 2700 calories par jour et par habitant de la planète. C'est bien plus que nos besoins qui sont 2800 ou 2000 calories par jour. L'espérance de vie dans le monde est de 70 ans moyenne. Nulle part, elle est inférieure à 50 ans. Un enfant qui naît aujourd'hui en Somalie ou au Congo vivra en moyenne 20 ans de plus qu'un Français né au début du 20e siècle. Le progrès, il est vraiment partout. La mortalité infantile s'est considérablement réduite, grâce aux vaccins notamment. 88% des enfants dans le monde sont vaccinés avant l'âge de 1 an de nos jours. 9 humains sur 10 ont accès à l'eau potable. 5 humains sur 6 ont accès à l'électricité. Nous n'avons jamais pu nous déplacer aussi facilement, ou du moins avant le Covid, ni sur d'aussi longues distances. Les matières premières sont bon marché. L'argent est disponible, presque gratuit, avec des taux d'intérêt nuls ou négatifs, grâce aux machines. Le temps de travail diminue partout. Les moyens de production qui étaient encore rares hier semblent aujourd'hui illimités. Et surtout, vous faites remarquer que les prix baissent depuis 200 ans et de plus en plus vite. On a l'impression totalement inverse.
Ah oui, ça c'est très contre-intuitif et pourtant c'est vrai. Et pourtant c'est vrai, on a l'impression que les prix ne font qu'augmenter parce qu'en fait on est victime de ce que l'économiste Jean-Baptiste Say appelait le voile de la monnaie, c'est-à-dire que la création de monnaie nous empêche de voir la réalité des choses, mais les prix baissent considérablement. Aujourd'hui, en temps de travail, il faut beaucoup moins de temps pour acheter à peu près tout en fait en réalité. Par exemple, si j'avais des choses aussi simples que voilà, un steak de viande coûte 5 fois moins cher qu'il y a 100 ans, un vélo il y a 100 ans coûtait le prix d'une moto aujourd'hui, une balle de tennis il y a 100 ans coûtait 50 euros, l'équivalent d'une raquette aujourd'hui. Tous les prix en fait exprimés en temps de travail baissent considérablement grâce aux progrès techniques et grâce au formidable progrès de la science et de la technologie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des crises.
On a bien compris. Mais au fond, ce que vous décrivez là, le grand économiste John Maynard Keynes l'avait annoncé dès 1930. Hein, il avait dit en 2030, il annonçait l'avènement d'une société capable de produire des biens essentiels pour tous.
Absolument. Le problème économique peut être résolu d'ici à 100 ans. C'est ce que disait John Maynard Keynes effectivement dans une conférence en 1930. Et moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il avait raison. Il avait une vision absolument incroyable et qu'en effet, Le problème économique est en passe d'être résolu. En revanche, on a beaucoup d'autres problèmes qui viennent de notre incapacité à bien le résoudre. Mais effectivement, on est dans une société où la capacité à produire de la richesse est suffisante pour qu'on l'absorbe. Mais par contre, vous parliez de la malnutrition tout à l'heure. On meurt plus aujourd'hui dans le monde d'obésité que de malnutrition. Voilà, ça c'est une crise de l'abondance très concrète.
On meurt plus de trop que de pas assez.
On meurt plus de trop que de pas assez. On meurt plus de trop de tabac, de trop d'alcool, de trop de sucre que de pas assez. On est dans une crise de l'abondance où finalement on a du mal à maîtriser cette abondance absolument incroyable qui nous a manqué pendant tant de millénaires et qu'on a réussi à avoir en 200 ans à peine depuis le début de la révolution industrielle et grâce à cette baisse des prix que je décris effectivement en détail. Et on est en fait dans une situation où le trop nous déborde en quelque sorte, nous dépasse.
Aujourd'hui, on est en plein dans une crise sanitaire qui dure depuis plus d'un an maintenant et sur laquelle on n'a pas fait beaucoup de progrès, en tout cas nous dans ce pays. Ça aussi, c'est le résultat de l'abondance ?
Alors non, évidemment, la crise en elle-même n'est pas le résultat de l'abondance. Et ce qui est très intéressant, c'est la façon dont on essaie de la gérer et d'en sortir. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'a pas manqué de tant de choses que ça. En tout cas, l'État a produit beaucoup d'argent, a fourni beaucoup d'argent, s'est occupé de nous pendant un an, a permis de payer en gros des gens qui ne pouvaient pas travailler. Il a fourni de l'argent à des entreprises qui ne pouvaient pas vendre. Et en réalité, il a... Quelque part, on est aujourd'hui dans une logique où on a une capacité d'offre et de produire qui existe déjà, et on a besoin de gens qui la consomment. On manque de gens qui la consomment, mais on ne manque pas, comme on avait pu manquer dans les crises du XVIIIe siècle ou d'avant, on ne manque pas de blé, on ne manque pas de pain, on ne manque pas d'eau, on ne manque pas de choses.
Et il y a eu beaucoup moins de morts du coronavirus qu'il n'y en a eu de la grippe espagnole.
Et il y en a eu beaucoup moins. Alors après, effectivement, la formidable technologie qu'on peut avoir et notre capacité à traiter... à trouver un vaccin en moins d'un an sur un virus qui n'existait pas il y a à peine un an, est absolument hallucinante. Et effectivement, c'est quelque chose, là encore, qui est totalement inimaginable il y a quelques siècles.
François-Xavier Olivo, on fait une pause, on y revient tout de suite.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec François-Xavier Olivo qui publie « La crise de l'abondance » aux éditions de l'Observatoire. Alors, vous l'avez dit, l'abondance n'interdit pas les crises environnementales, politiques, financières, sociales. Parlons du social. Le problème, on le disait tout à l'heure, c'est souvent l'inégalité entre les Français. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi entre les Français et les Haïtiens, par exemple.
Oui, bien sûr, il y a des inégalités effectivement au niveau des pays. Alors celle-là, elle tend plutôt à se réduire. Le creusement des inégalités qu'on a pu constater depuis quelques décennies est plutôt au sein même d'un même pays. Et moi, je pousse une idée dans mon livre qui n'est pas très souvent reprise, qui est que c'est en grande partie une conséquence indirecte des politiques monétaires. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les inégalités ? En réalité, la façon dont on crée de la monnaie a tendance à surévaluer, à créer des bulles sur les patrimoines et donc à creuser les inégalités de patrimoine. Et c'est notamment l'une des raisons pour les très fortes hausses de l'immobilier et des marchés actions depuis des décennies, y compris d'ailleurs en pleine crise. On a des marchés actions qui sont très décorrélés de la réalité économique et c'est un levier de creusement des inégalités qui, à mon avis, n'est pas assez mise en valeur et qui est très important.
Au fond, les revenus du capital s'accroissent au détriment des revenus du travail.
Absolument. Et c'est aggravé en plus, notamment dans la crise actuelle, par le fait que les travailleurs les plus touchés par la crise de la Covid sont effectivement les travailleurs les plus précaires. Et inversement, les travailleurs plutôt col blanc ont pu télétravailler, n'ont pas perdu beaucoup de revenus et ont plutôt gagné en termes d'appréciation du patrimoine. Donc, on a une crise qui est extrêmement inégalitaire, qui creuse considérablement les inégalités et d'ailleurs qui, à mon avis, est un enjeu politique majeur pour 2021.
La crise environnementale, on comprend bien que ce sont nos rejets et nos déchets qui polluent la Terre et son atmosphère. Là aussi, pour vous, la source, c'est l'abondance.
Absolument. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est mal compris parce que les gens sont persuadés qu'on a une rareté qui est en train d'arriver, qu'on va plus avoir de pétrole, qu'on n'aura plus de métaux rares, etc. Et je traite vraiment ces points dans mon livre en expliquant, mais non, en réalité, on a beaucoup plus de métaux et de terres et de qu'on
terre,
le pense.
C'est les terres rares.
Les terres rares, voilà, les terres rares ou même de terres arables, enfin même de surfaces cultivables. En réalité, on n'est pas menacé de rareté, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Mais le vrai problème, c'est effectivement notre capacité c'est l'abondance et du coup le prix assez bas de tous ces produits qui fait qu'on en consomme beaucoup trop. Et c'est notre consommation qui crée de la pollution. C'est parce qu'on a finalement, on consomme beaucoup plus de pétrole et il n'a pas du tout disparu, on en consomme beaucoup plus, qu'on crée beaucoup d'émissions de carbone et qu'on réchauffe la planète.
Donc la première crise, la crise environnementale, elle vient de la société de l'abondance. La deuxième crise, c'est celle de l'argent. Là aussi, il y a trop d'argent. L'argent est trop disponible. Il ne coûte pas assez cher.
Oui. En fait, on a une façon de créer de l'argent qui est très inégalitaire, comme je l'ai dit, et qui en plus a un côté un peu absurde. La société d'abondance crée de la richesse. Nous créons de la richesse en permanence. Et pour bien que ça fonctionne, il faut qu'on crée en même temps une masse d'argent équivalente. Bon, ça c'est assez clair et c'est pour ça que les banques centrales facilitent la création d'argent. Le problème, c'est qu'on crée cet argent par de la dette Et la dette, c'est effectivement une création d'argent, mais qui est de l'argent temporaire, c'est-à-dire qu'on le rembourse. Une fois que vous avez, voilà, vous émettez de la dette qui doit être remboursée, et donc vous détruisez au fur et à mesure l'argent que vous créez. Et c'est une espèce de course sans fin, où on crée de plus en plus de dettes, mais on la détruit en la remboursant au fur et à mesure, et on est obligé de pousser au maximum les curseurs de façon à ce que les gens empruntent au-delà du raisonnable, parce qu'on a décidé de compenser cette richesse permanente par une monnaie qui est temporaire, ce qui est une absurdité totale. Et donc du coup, je préconise effectivement de changer radicalement la façon dont on crée de l'argent pour se permettre de créer de l'argent, de la monnaie permanente.
La troisième crise, ce serait celle de l'homme. L'homme face aux machines. Hein. L'économie a de moins en moins besoin de nous. Ça aussi, ça fait partie de l'abondance.
Ouais.
C'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de temps libre qu'autrefois, beaucoup plus de loisirs, de pouvoir s'éduquer beaucoup plus longtemps, de pouvoir prendre sa retraite beaucoup plus tôt. Mais néanmoins, ça crée, en créant de l'abondance, ça crée des crises.
Exactement. Ces esclaves mécaniques dont nos ancêtres auraient rêvé pour faire leur corvée et leur travail, ils nous ont permis effectivement de libérer beaucoup de temps. Vous le dites très justement, on est passé de 70% du temps éveillé au travail au 19e siècle à 12% seulement aujourd'hui. On passe finalement la plus grande partie de notre vie à autre chose que du travail rémunéré. Et paradoxalement, donc ça pourrait être une libération ou vécu comme une libération, mais c'est aussi vécu comme un drame parce que le travail, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait, pas seulement au niveau économique, mais c'est ce qui nous donne une colonne vertébrale, c'est ce qui nous permet d'avoir une place dans la société. Et ça, c'est vraiment un défi considérable de voir que ce travail-là va être de plus en plus fait par des machines. Toute la question qu'on va avoir, ça va être comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on repense notre travail face aux machines et à l'intelligence artificielle, aux robots. Je ne crois pas à la disparition du travail du tout. Hein. Je pense qu'on va avoir de plus en plus une séparation entre le travail et la rémunération et les revenus. On va avoir de plus en plus de revenus qui ne seront pas liés à un travail et probablement de travail qui ne sera pas lié à un revenu, qui sera du travail bénévole ou moins bien rémunéré.
François-Xavier Olivaux, dernière question. Comment fait-on pour opérer une telle révolution mentale? C'est-à-dire qu'on a été pendant des siècles habitués à gérer la rareté. Aujourd'hui, il faut gérer l'abondance, d'après ce que vous nous dites.
Ouais.
Ça change tout.
Ah, ça change tout. C'est extrêmement difficile. Et je le vois quand j'en parle autour de moi. C'est très, très difficile de se remettre dans une logique d'abondance. Je propose des solutions qui sont très choquantes, qui peuvent paraître très choquantes parce que en les analysant au prisme de la rareté, elles paraissent complètement absurdes. Alors qu'en réalité, on est dans un vrai changement de modèle, un changement de paradigme complet qui est une chance incroyable. Mais il est très très difficile à nos esprits façonnés par des millénaires de rareté de comprendre ça. Donc j'essaie d'y contribuer en tout cas par mon livre.
La crise de l'abondance, c'est signé François-Xavier Olivaux. C'est une bonne nouvelle, hein, a priori. Mais en même temps, il ne faudrait pas que ça se retourne contre nous. Ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci François-Xavier Olivaux.
Merci beaucoup Frédéric.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Jean-Todd, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération internationale automobile jusqu'à la fin de l'année. La FIA, c'est l'organe directeur du sport automobile. Vous êtes également envoyé spécial de l'ONU pour la sécurité routière. Vous venez d'ailleurs de publier « Des millions de vies à sauver sur les routes du monde » aux éditions Débat public, on en parlera. Et puis, il faut rappeler que vous avez été le directeur général de l'écurie Ferrari et que vous l'avez remise au plus haut niveau à l'époque avec 6 titres de champion du monde des constructeurs et 5 titres de champion du monde des pilotes pour Schumacher. Justement, le championnat du monde de Formule 1 reprend dimanche prochain avec le Grand Prix de Bahreïn. Melbourne a été reporté en novembre à cause de l'épidémie de Covid, pas en Australie où il y a très peu de cas, mais en Europe justement et en Grande-Bretagne en particulier où sont basées 7 des 10 écuries de Formule 1. Est-ce que la pandémie a changé des choses? Vous aviez proposé un New Deal. Est-ce qu'il a été suivi?
Évidemment, ça a changé beaucoup de choses pour la planète entière et plus particulièrement pour la Formule 1. Il a déjà fallu réaménager le calendrier et c'est la raison pour laquelle on va commencer avec le premier Grand Prix à la fin de la semaine prochaine au Bahreïn pour des raisons évidentes d'impossibilité de voyager. Donc la première partie, elle va être plus concentrée sur l'Europe en espérant qu'à partir de cet été, eh bien, on pourra voyager d'une manière plus normale. Cela étant, il n'est pas exclu qu'on soit confronté à des situations où on devra faire preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup de créativité, ce qui est le cas d'ailleurs depuis maintenant un an. Ça fait un an qu'on se trouve dans cette situation et qu'il a fallu organiser un nouveau championnat, un nouveau calendrier en 2020 et puis qu'on se trouve face à une situation à peu près comparable en 2021.
En 2020, j'ai l'impression que vous avez presque sauvé la Formule 1. Justement, avec cette idée de New Deal, c'est la première fédération, au fond, qui a repris du poil de la bête.
C'est la première organisation internationale et la première discipline avec effectivement la Formule 1 et puis d'autres catégories de compétitions automobiles ont suivi comme les rallyes, l'endurance, la Formule E, beaucoup d'autres disciplines qui effectivement ont dû être un peu remodelées.
Vous avez instauré en Formule 1 un plafond budgétaire imposé aux écuries, 145 millions de dollars. Est-ce que c'est à cause du Covid, parce qu'il y a moins de sponsors, ou c'est pour réduire les inégalités entre les petites et les grosses écuries ?
Alors en fait, c'est pour beaucoup de ces raisons, puisque la Formule 1 coûte trop cher. Déjà, peut-être une petite parenthèse, la Formule 1, c'est le pinacle de la compétition automobile. Donc, c'est un spectacle, mais ça doit être également un laboratoire. Laboratoire en matière de sécurité, en matière d'environnement. Et il y avait trois équipes qui avaient des budgets qui étaient nettement supérieurs à l'ensemble des autres. Donc on a voulu reniveler tout ça et ça passait à travers la mise en place d'un contrôle des coûts. Et disons que la pandémie nous a permis d'être plus ambitieux. Puisque au départ, on parlait d'un contrôle des coûts autour de 170 millions de dollars. Et puis finalement, on est arrivé à 145 millions pour cette année, 140 en 2022, 135 en 2023. Mais ça ne comprend pas un certain nombre de frais qui sont hors contrôle des coûts. Donc malheureusement, on ne peut pas dire que les budgets globaux seront de ce montant. Mais en tout cas, ça sera inférieur à ce qui se passait jusqu'à présent.
Est-ce qu'à votre avis, ça va remettre un peu de concurrence dans un sport où on a l'impression, paradoxalement, qu'il y a de moins en moins de compétition? Je veux dire par là que Lewis Hamilton est le meilleur pilote. Il pulvérise les records de victoires, de podiums, de pole position. Mercedes, c'est de loin la meilleure voiture sur le circuit. Et à partir de ce moment-là, on a l'impression qu'il n'y a plus de course. Ils Alors, vont gagner.
Je crois qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Effectivement, depuis maintenant 7 ans, il y a une domination Mercedes-Hamilton. Mais avant, il y avait une domination Red Bull-Vettel. Avant, c'était Ferrari-Schumacher. Donc, la domination, d'une certaine manière, fait partie, pas seulement du sport automobile, mais du sport en général. Vous voyez dans le football que des équipes gagnent 10 ans successivement. Vous le voyez dans le tennis, vous le voyez dans l'athlétisme. Donc, c'est un fait. Cela étant, j'espère que cette année, les cartes seront un peu redistribuées. Alors comment elles peuvent être redistribuées? C'est souvent à travers des changements de réglementation. Et puis, il appartient aux autres équipes de faire ce qu'il faut faire pour inverser cette tendance. Donc, écoutez, j'attends avec impatience, comme beaucoup de monde d'ailleurs, de voir comment va se dérouler la première course au Bahreïn, sachant que la dernière course qui était à Abu Dhabi en 2020 avait été dominée par Red Bull et Verstappen.
Et que la course du Bahreïn, c'est là que Romain Grosjean a failli mourir hein, avec cet accident incroyablement violent et spectaculaire. Vous avez dévoilé au tout début de ce mois-ci le rapport sur cet accident. Quelles conclusions en tirez-vous? On se souvient que Romain Grosjean avait été quasiment sauvé par son halo, hein, cet arceau de protection, très discuté à l'époque où il avait été imposé, et que lui-même Grosjean combattait. Et là, il a reconnu: heureusement, ça m'a sauvé la vie. Il vous remercie d'une certaine manière, hein, j'entends.
Non, c'est vrai que ça lui a sauvé la vie. Ça a également sauvé sûrement d'autres vies dont on ne parle pas. Mais notre rôle en tant que régulateur et législateur du sport, c'est de mettre tout en œuvre pour améliorer la sécurité. Améliorer la sécurité, pas uniquement dans les monoplaces, pas uniquement dans les championnats du monde, mais dans toutes les catégories de compétition automobile. Alors c'est vrai aussi, on a tendance à être un petit peu réfractaires au changement. Et lorsque on a parlé de mettre en place ce genre de visière sur une monoplace, eh bien évidemment, il y a eu une réaction en disant ben, c'est plus la Formule 1, c'est plus ce que nous aimons. Et on l'a imposé parce qu'on savait que c'était une amélioration en matière de sécurité. Et puis, il a fallu effectivement que la planète entière soit devant ces images terribles et qu'il en sorte indemne. Néanmoins, on ne peut pas être complètement satisfait parce que la voiture a pris feu. La voiture a explosé.
Ça, c'était pas arrivé depuis longtemps. Hein,
et pourquoi elle a explosé ? Parce qu'elle s'est cassée en deux. Elle a été découpée par ses rails. Et donc maintenant, on a travaillé de manière à ce que si un accident identique devait se passer, la voiture ne prenne plus feu. Donc c'est le challenge. Mais je pense que peut-être pas dès cette année, mais à partir de 2022, eh bien, l'accident de Romain Grosjean, à l'identique, la voiture n'exploserait plus.
On fait une pause et on continue de parler de sécurité, Jean Toth.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Jean Toth, le président de la Fédération internationale automobile. Hormis le regretté Jules Bianchi, qui est mort des suites d'une collision au Grand Prix du Japon, les pilotes de Formule 1 ne suent plus, ou depuis au moins Ayrton Senna et Roland Ratzenberger. C'était en 1994. Jusque-là, c'était une véritable hécatombe. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait pour y mettre un terme ?
En fait, je crois que depuis maintenant plusieurs décennies, on fait en sorte d'améliorer la sécurité en compétition automobile, et d'ailleurs sur les voitures de série également. Donc il y a des progrès formidables qui ont été faits. Et chaque accident, on le disait il y a quelques minutes, chaque accident doit être un enseignement pour ce qui pourrait se passer, donc avoir une vision de ce qui pourrait se passer. Ce qui n'est pas facile parce que chaque scénario est différent. Vous parlez de la Formule 1, mais il y a les autres disciplines. Parce qu'une vie, qu'elle soit perdue en Formule 1 ou qu'elle soit perdue en Formule 3 ou en karting, c'est une vie. Donc ça, il faut viser vision zéro en compétition automobile.
Vous êtes pratiquement parvenu. Alors peut-être grâce au casque, grâce
à l'adoption de meilleurs composants
pour les voitures, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos voitures à nous ?
On a progressé en matière de véhicules, en matière d'équipement et en matière de circuits. Il y a des résultats concrets sur les voitures de série. Un exemple, c'est le contrôle de stabilité électronique, par exemple. Le contrôle de stabilité électronique qui permet à un conducteur modeste d'avoir pratiquement sa voiture tout le temps sous contrôle. Alors peut-être qu'il faut mieux communiquer sur ce qu'il y a en place, mais aujourd'hui, sur la route, on a l'ordonnance pour être sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre « Des millions de vies à sauver ».
Et alors, je rappelle effectivement que vous êtes l'envoyé spécial de l'ONU pour la sécurité routière. Dans ce livre qui vient de paraître aux éditions Débat Public, vous faites le bilan de l'action des Nations Unies dans ce domaine. Vous dites d'ailleurs que vous n'êtes pas parvenu à atteindre tous les objectifs que vous étiez fixés.
Non, malheureusement, en fait, la sécurité routière fait partie du développement durable, des objectifs du développement durable. Vous savez qu'il y en a 17 l'objectif 3.6, c'était entre 2010 et 2020 de diviser par deux le nombre de victimes sur les routes, ce qui n'est pas le cas.
Néanmoins, le risque de mourir dans un accident de voiture a quand même beaucoup baissé, hein, hors circuit, pas seulement sur les circuits.
Alors, il a baissé dans les pays dits développés comme la France.
Oui, là, puisque il s'est divisé par 5, hein,
Il y a 45 ans, il y avait 18 000 morts sur les routes tous les ans en France. En 2019, puisque 2020 n'est pas une année représentative compte tenu de la pandémie, mais en 2019, il y a eu 3 250 morts avec trois fois plus de véhicules. Ça veut dire une amélioration divisée par 15. Néanmoins, trop de victimes, on ne peut pas dire c'est bien, il y a eu 3 250 morts. Donc on doit faire mieux et on peut faire mieux et on sait ce qu'il faut faire pour faire mieux. Par contre, malheureusement, 93% du 1 400 000 morts sur les routes tous les ans et des 30 à 50 millions de blessés avec des séquelles se déroulent dans les pays en voie de développement, où tous les ans, les chiffres augmentent. Une partie de la population n'a pas accès au transport public. Et là aussi, c'est un autre objectif du développement durable, ce qui est le 11.2, qui est de permettre d'avoir l'accès au transport public à tous les citoyens du monde d'ici 2030.
Vous pensez que ça pourrait révolutionner ce chiffre-là, en tout cas ?
Si vous voulez, si on fait ce qui a été fait dans les pays développés, dans les pays en voie de développement, eh bien, on atteindra les mêmes résultats. Mais ces pays ont entre 30 et 50 ans de retard. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre la priorité.
Ils connaissent, au fond, les excès aujourd'hui que nous avons connus il y a 40 ou 50 ans.
Exactement. On se trouve dans une situation comparable, mais souvent avec une misère beaucoup plus importante que ce qui pouvait se passer il y a 45 ans, en France notamment.
Vous n'avez pas l'impression, Jean Todt, qu'il y a aussi quelque chose de culturel là-dedans? Au fond, jusque dans les années 60-70, l'accident de voiture, c'était considéré comme héroïque. Il y avait quelque chose de bien vu au cinéma, il y avait une esthétique, y compris dans le rock. C'était la mort préférée des idoles des jeunes. C'est fini aujourd'hui, c'est devenu la mort la plus bête du monde.
Non, en fait, déjà, c'est vrai, il y a eu une évolution. Il y a des choses qui étaient possibles, qui étaient acceptées, mais pas uniquement dans le domaine de la route. Il y a 45 ans qui ne sont plus acceptées aujourd'hui. Donc, ça, c'est une évolution de la société. Et puis, je crois qu'il y a aussi... on considère que c'est la fatalité. On n'y pense pas. Là, par exemple, aujourd'hui, tout le monde a peur d'être atteint du Covid-19, donc tout le monde se protège. Alors que sur la route, on pense que ça ne va pas vous arriver. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à l'époque, on n'attachait pas sa ceinture, on ne mettait pas un casque, on ne respectait pas la limitation de vitesse, on buvait sachant que ça pouvait provoquer des accidents. Alors qu'aujourd'hui, le renforcement des lois, et donc c'est important, la rigidité des forces publiques est capitale pour diminuer le nombre de victimes et pour contrôler ce qui se passe sur les routes.
Merci Jean-Todt. Le prix de Bahreïn, c'est donc le 28 mars. Et votre livre, Des millions de vies à sauver sur les routes du monde, c'est paru aux éditions Débat Public. On se retrouve dans un instant avec Françoise Chandernagor.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Françoise Chandernagor.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous revoir. Depuis 10 ans, vous ressuscitez le monde antique en racontant la vie pleine de rebondissements de Sélénée, la fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine, qui a vraiment vécu.
Elle a vraiment existé. Le jour où j'ai découvert qu'il y avait une fille de Cléopâtre, je me suis dit que si elle n'avait pas existé, on l'aurait inventée, parce que c'est extraordinaire. Oui.
Vous avez d'ailleurs intitulé votre saga La Reine oubliée. Oui. Le troisième tome vient de paraître chez Albin Michel. Il s'intitule L'homme de Césarée. Quel destin que celui de cette jeune femme.
Incroyable.
Et alors, c'est d'autant plus incroyable qu'on se souvient de sa mère. On se rappelle son nez, sa bouche, sa sensualité, ses amours, ses amants, ses bains de lait, sa détermination à préserver l'indépendance de l'Égypte. Il y a une sorte de culte qui est voué à Cléopâtre. Oui. Mais Sélénée, on l'a oublié.
On ne la connaît pas du tout. Alors, d'ailleurs, on a oublié que Cléopâtre avait eu 4 enfants, quand même. C'est jamais montré dans les films sur Cléopâtre. C'est une mère de famille nombreuse, mais ça paraît moins sexy a priori. Donc, en tout cas, Sélénée a été élevée avec... Elle est la seule fille. Elle a été élevée avec 4 frères à Alexandrie. Et les frères ont tous été, tôt ou tard, deux tout de suite, les aînés, tués par les Romains, égorgés.
Dont le fils de César
et Cléopâtre. Donc c'était les demi-frères de Sélénée. Et puis deux autres qui sont plus petits et qui sont morts peu après, peut-être de maladie ou peut-être qu'on les a un peu aidés en les empoisonnant ou en les traitant mal.
Elle, je parle de destin extraordinaire parce qu'elle avait 10 ans quand ses parents, Cléopâtre et Marc-Antoine, se sont suicidés.
Oui.
Ses frères donc, ont été assassinés.
Oui.
Elle-même a été réduite en esclavage.
Oui,
elle a défilé à Rome, chargée de chaînes.
Absolument, chaîne d'or, mais chargée de chaîne.
Vous avez raconté tout cela dans les 2 premiers tomes.
Oui.
Et là, au moment où on la retrouve, elle a 20 ans. Et l'empereur Octave la marie au roi d'un pays barbare, celui que vous appelez l'homme de Césarée, Juba, qui règne sur un royaume berbère, la Mauritanie, qui comprenait à l'époque l'Algérie et le Maroc actuel. Césarée, c'est la ville de Cherchel, en Algérie.
Exactement. Et il en a fait sa capitale.
Ce qu'il y a de plus étonnant encore, Françoise Chandernagor, c'est cet homme Juba. Lui aussi, on l'a oublié. On s'attend
à ce que
les Romains appelaient un barbare. Et on découvre, parce qu'il allait exister lui aussi, on découvre un homme très lettré, amoureux de la Grèce, avec une bibliothèque incroyable.
Oui.
Vous dites même qu'il a inventé le fichier, carrément.
Alors je ne sais pas si. Je me suis inspiré là de la technique de Pline l'Ancien. Hein, mais parce que Juba est le premier encyclopédiste avant Pline. Et effectivement, c'est très difficile de retrouver une citation dans des papyrus qu'il faut dérouler. Et il va inventer, Pline aura le même système, un système de fiches, effectivement, qui coulissent. Quoi. Et on note les citations ou les
éléments.
Mais
c'est fantastique l'idée qu'il y avait une telle bibliothèque royale à l'époque.
Ah ben oui. Mais
à Churchill.
Oui, alors à Churchill, mais à Alexandrie, il y avait 700 000 volumes quand même.
Oui, mais c'est une grande civilisation, on la connaît,
oui,
la civilisation égyptienne.
Oui, c'est ça.
On connaît mal la civilisation berbère de cette époque.
On la connaît très mal, et ils étaient quand même, ils avaient une forte influence grecque, plus que de Rome, hein, mais grecque. Et d'ailleurs, Juba a écrit en grec. Il parlait grec. Son père, qui n'avait pas changé, il a un destin, Juba, qui est très proche de celui de Sélénée. Son père a été vaincu par Jules César et a dû se suicider. Et son fils a été emporté comme prisonnier, donc c'est tout à fait similaire, et a dû défiler aussi dans un triomphe romain de César, sous les huées de la foule. Et bon, mais il n'avait que 3 ans. Il est moins marqué que Sélénée par toutes ces épreuves-là, parce que Sélénée avait 10 ans, elle, quand tout ça arrive.
Et lui, on lui a rendu son royaume.
Alors, à un moment donné, effectivement, Auguste, qui voit qu'il ne peut pas venir à bout de tout ça, c'est compliqué, décide de recréer un royaume de Maurétanie, puisque ça s'appelle la Maurétanie et pas la Mauritanie, et avec le Maroc et l'Algérie. Et les Romains gouvernant directement ce qui est aujourd'hui la Tunisie, et qu'ils ont prise depuis l'époque de Carthage. Et effectivement, ces gens parlent une langue qui est le libico-punique, c'est-à-dire un mélange de berbères et de phénicien, la langue de Carthage. Et Juba a appris à lire et il a traduit des livres puniques venant de Carthage. Et puis, par ailleurs, il a été élevé à Rome, mais en grec, dans la culture grecque. Il est tombé dans une excellente famille, qui était la famille du beau-père de César, où il a été gardé comme otage, mais il a reçu une excellente éducation. Et très jeune, il commence à publier des livres. Il s'intéresse à la linguistique, il s'intéresse énormément à la géographie.
Ils sont des personnages vraiment étonnants. Hein.
Ah, oui.
Et en même temps, vous avez fait des recherches très, très poussées.
Ah, oui,
hein. Il y a
même
une reconstitution du monde antique qui est passionnante. Par exemple, on a pris l'habitude de voir les Romains, chez les Romains en tout cas, le côté orgiaque. Mais vous racontez que jamais une Romaine ne faisait l'amour dans une chambre éclairée.
Ben
la
oui.
lumière du jour était acceptable à la rigueur, mais la lumière artificielle déshonorait une femme.
Mais
la
oui.
veilleuse allumée près du lit, c'était pour les prostituées.
Absolument. Et c'est pour ça, par la suite, on parlera de Messaline qui, soi-disant, allait dans des bouges et dans des lupanards en disant qu'elle rentrait chez elle avec la figure marquée de suie, parce qu'elle avait fait ça toute la nuit, mais avec une lampe allumée qui dégageait au bout d'un moment, c'était des lampes à huile.
Donc de la suie, oui,
oui.
Effectivement. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi ces femmes à la sensualité, par ailleurs, débordante
Ça dépend lesquelles. Font... Hein,
oui, mais bon, je veux dire, par
la matrone romaine n'est pas. Jusqu'à Ovide, qui va célébrer l'art d'aimer, donner des conseils sur les positions à prendre, ça vaut largement les 32. De position de ma jeunesse, qui était le livre danois que tout le monde consultait. Ça dépend lesquels. L'idéal de la matrone romaine, c'est quand même la fidélité, ne pas éprouver de plaisir, faire beaucoup d'enfants, enfin, c'est ça l'idée. Mais ça avait quand même passablement changé déjà à l'époque des guerres civiles et à l'époque où Auguste crée l'Empire et du reste, sa propre fille va défrayer la chronique,
mais
Julie.
D'où vient cette méfiance à l'égard de la lumière artificielle?
Je suis incapable de vous
On
le dire.
On ne sait pas, hein. c'est
ah,
ça,
non,
c'est,
non,
un
non. C'est, ça, c'est un
mystère.
Ça, c'est un mystère.
Vous montrez qu'au jeu du cirque, on amenait les enfants, par exemple.
Ah ben oui, bien sûr.
Et on trouvait ça tout à fait normal
ah oui,
de leur
parce
montrer...
Que ça... Oui, ça les encourageait. Il ne fallait pas qu'ils soient faibles. Et voir mourir les gladiateurs, c'était très bien, parce qu'ils apprenaient à mourir. Ils apprenaient le courage. On ne se plaint pas. On a le bras coupé. Ben voilà, on n'en fait pas une histoire, etc. Bon. Et donc, on leur montrait ce qui était horrible, les condamnations, les condamnés qu'on jetait aux bêtes, quoi. Oui,
et je trouve que c'est aussi un livre très intéressant sur l'aveuglement des nations. Je crois que c'est comme ça que vous le dites d'ailleurs, pour ceux qui les dirigent, mais aussi ceux qui les peuplent. Au fond, nous ne savons pas quelle époque nous vivons.
Ah, pas du
pas
tout.
Plus Sélénée que nos dirigeants actuels, pas plus les habitants de Churchill à l'époque que nous aujourd'hui.
Pas du tout, oui, ça c'est
elle
une chose qui
Elle ne savait pas
qu'en
fait c'était le début de l'Empire romain, de
non,
la Pax
elle,
Romana.
Non, elle croit que c'est encore rattrapable. Parce
elle croit que c'est encore la guerre.
Elle rêve de vengeance et elle rêve d'avoir des enfants. enfants qui, un jour, depuis la Maurétanie, reconquerront l'Égypte et de nouveau combattront le monde romain. Or, la mondialisation sous l'autorité de Rome est à ce moment-là inéluctable. Et on va avoir la première mondialisation de l'histoire. Alors, le monde connu, évidemment. Le monde connu, c'est la Méditerranée et quand même un peu au-delà, parce que disons qu'ils n'arriveront quand même pas à soumettre vraiment la Germanie, qu'ils connaissent. Ils iront jusqu'à l'Elbe, mais enfin, ils ont du mal. Et ils n'arriveront pas à vaincre les Parthes, enfin, un peu, de temps en temps, mais qui occupent jusqu'à l'Euphrate. C'est la Perse, c'est l'Iran-Irak actuel qui leur pose beaucoup de problèmes. Remarquez que ça continue, hein, mais il y a des pays comme ça où c'est pas facile, hein, c'est pas facile du tout. Mais le reste du monde est complètement sous leur coupe. Le monde connu, encore une fois, évidemment, ils connaissent pas l'Amérique et la Chine. Ils soupçonnent l'existence de la Chine parce que c'est le pays de la soie. Ils savent bien qu'il y a un pays de la soie, mais la soie passe par l'Inde et leur arrive par les caravanes. Et ils savent bien que ces gens-là qui fabriquent la soie n'ont pas du tout envie qu'on aille les voir. Donc, ils s'en fichent. Ils pensent que c'est un petit pays, de toute façon.
Mais c'est drôle, effectivement. On a commencé cette émission en disant qu'au fond, on est l'époque la plus riche de l'histoire de l'humanité. Et la plupart des gens n'en sont pas conscients, n'y pensent pas quand ils se réveillent le matin. Et pour cause, il y a énormément de crises. Et au fond, du temps de Séléné, c'était pareil. On n'avait pas conscience, non, au fond, de quel moment on vivait.
Non. De même que je me suis aperçu, et on le verra dans le quatrième volume, que Séléné a vécu presque en même temps que le Christ. Et c'est pas du tout le même monde. Et là, on est avec le monde romain dans un monde dur quand même, hein, où la compassion est totalement ignorée, hein, totalement. De même, le rapport avec les dieux est un rapport de donnant-donnant ou de crainte, mais n'est pas un rapport d'amour. Et on sent que, et ça je vais continuer à le montrer, qu'il y a quand même des gens qui commencent à aspirer à des dieux un peu plus respectables que les dieux de l'Olympe, qui font des tas de choses vraiment pas recommandables, et puis qui aspirent à aimer et être aimé d'un dieu. Et ça, ça va être une aspiration nouvelle, mais dont ils ne sont pas conscients et qui permettra le développement du christianisme ultérieurement.
L'Homme de Césarée, c'est le troisième tome de la saga La Reine oubliée, publié par Françoise Chandernagor aux éditions Albin Michel. Merci Françoise.
Merci. Europe 1.
C'est arrivé demain est terminé. On se retrouve samedi prochain. Après le flash de 10h, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Votre invité, Mickaël, c'est Anne Hidalgo.
Bonjour, effectivement, Anne Hidalgo, maire de Paris. Elle s'est faite une attestation spéciale pour sillonner le pays, candidate pour l'Élysée.
Bonne émission.